Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin. Alors, je ne sais plus quel micro choisir maintenant parce qu'il y a trop de micros. Donc, je ne sais pas si c'est mieux que je prenne un pupitre ou si je reste là. Ça vous va? Ça vous va comme ça? Bon, ben on va faire comme ça alors. Ça marche. Alors, évidemment, Loïc nous l'a rappelé ce matin. Vous le savez, nous le savons tous. C'est la fameuse semaine de Noël qui commence. Et dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Et donc, évidemment, ce matin, j'aimerais encore prendre le temps de vous parler de Noël. Mais avant cela, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le premier enseignement public de Jésus? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quel est le premier enseignement public rapporté par les évangiles de Jésus? Alors, les noces de Cana, c'est le premier miracle, mais le premier enseignement qu'il donne, c'est pas le sermon sur la montagne, il y en a encore un avant. J'entends un brouhaha, je ne saurais pas trop dire. Exactement, quand il est allé à la synagogue à Nazareth. On est dans Luc chapitre 4, et juste après ce temps de tentation qu'il va vivre dans le désert, dans Luc, qui nous est rapporté par Luc au chapitre 3 de l'Évangile. C'est écrit qu'il va aller prêcher en Galilée, donc ce n'est pas son premier enseignement, parce qu'avant il était en Galilée, il a prêché. Regardez Luc chapitre 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ça, c'est le tout début de son ministère public. Et puis, verset 16, c'est écrit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et à ce moment-là, il va lire un texte très précis de l'Ancien Testament. Il va lire un texte qui est dans le livre d'Ésaïe, et on le voit dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus utilise ce texte d'Ésaïe pour annoncer publiquement et officiellement qu'il est le Messie. Une fois qu'il a lu ce texte, il dit cette parole, il roula le livre, pardon, il se mit à dire, pardon, verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, il parle il lit, pardon, un texte messianique et dit aujourd'hui, c'est en train de s'accomplir. Il annonce qu'il est le Messie promis. Et la particularité du ministère du Messie qu'il est en train de soulever là, Jésus, c'est un grand renversement. Ceux qui ont le cœur brisé sont guéris et restaurés. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Les captifs sont délivrés. Les aveugles recouvre la vue, les opprimés sont libérés. Voilà en fait une des caractéristiques principales de la venue du Messie dans ce monde. Il va y avoir un grand renversement des choses. Et ce grand renversement, on va le voir dans tout le ministère de Jésus. Il va élever les humbles et aussi abaisser les orgueilleux. Le ministère de Jésus ne s'adresse pas à ceux qui se pensent être justes, en particulier les chefs religieux, ni aux riches qui ne manquent de rien. Le Messie va plutôt aller chercher les pauvres, les sans-grades, les affligés, les exclus de la société. Et pendant tout son ministère, Jésus va attirer ce genre de personnes qui sont meurtries par leurs péchés et qui s'humilient dans la repentance. Et cette réalité du grand renversement de la société, du monde, eh bien, on la voit dès la naissance de Jésus. Et je vous propose ce matin de parcourir quelques-uns. Tant pis, je garde ce titre, et puis voilà. Merci Dominique de nous permettre d'utiliser ce titre. Donc, Noël, c'est renversant. Alors, on va regarder le premier grand renversement. On voit les élevés qui s'humilient. Ça, c'est le premier schéma de grand renversement qu'on voit dans le récit de Noël. Quatre personnes, ou en tout cas quatre réalités de personnes élevées qui s'humilient. La première réalité, c'est le roi du monde qui naît dans une étable. On est dans Luc chapitre 2, versets 6 à 8. Alors si vous avez une Bible, vous pouvez le suivre avec moi. Je vais lire plusieurs textes dans l'évangile de Luc et dans Matthieu, plusieurs textes de la Nativité. Il va falloir lire un petit peu, sinon si vous n'avez pas de Bible, eh bien, il y en a à l'entrée, vous pouvez aller en chercher une. Et sinon, vous pouvez simplement écouter. Donc Luc chapitre 2, versets 6 et 8, voilà ce qu'il est écrit. « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » L'histoire a retenu le souvenir d'enfants hors normes. Alors j'ai fait quelques recherches. Et voilà quelques exemples d'enfants exceptionnels. Jean-Louis Cardiac, au XVIIIe siècle, connu comme étant l'enfant prodige à cette époque, aurait su, dit-on, réciter l'alphabet à l'âge de 3 mois. Vers 4 ans, il lisait le latin, le grec et l'hébreu, pratique pour étudier la Bible, et il traduisait le latin en anglais et en français. Pas mal. On se sent tout petit. On peut parler aussi du grand compositeur que vous connaissez sans doute, Wolfgang Amadeus Mozart. À 3 ans, il savait jouer du clavier juste à l'oreille. À 6 ans, il a composé son premier morceau. Et puis, il a commencé à faire le tour de l'Europe à cet âge-là pour jouer avec sa sœur. Et puis, à 8 ans, il compose sa première symphonie. Un enfant prodige. Plus proche de nous, notre contemporain Kim Ung-yung, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, en Corée du Sud, on est dans les années 60. Et à l'âge de 4 ans, il était capable de lire le coréen, le japonais, l'allemand et l'anglais. Au même âge, il savait résoudre des équations mathématiques complexes. Et à l'âge de 7 ans, la NASA lui demande de venir aux États-Unis pour le former. Ils ont vu le potentiel du bonhomme. Et voilà qu'à 7 ans, il part aux États-Unis avec sa famille. Il est pris en charge par la NASA. Et à 16 ans, il a un doctorat en physique. Et on pourrait en citer d'autres, des enfants comme ça dans l'histoire. C'est arrivé. Mais tous font pâle figure face à Jésus, qui est Dieu le Fils et qui vient sur terre. Aucun génie humain, aucun QI, si développé soit-il, si grand soit-il, aucun record d'apprentissage précoce ne peut rivaliser avec Dieu qui s'incarne dans un bébé. Et pourtant, Jésus est né dans une mangeoire, l'endroit où on mettait les animaux et les voyageurs. Et peut-être, certains disent que c'était les pires conditions possibles pour faire naître un bébé. C'était un endroit qui sentait mauvais, qui était crasseux, froid, avec du bruit, les animaux qui étaient là tout autour. Mais c'est là l'entrée qu'il convient pour le Fils de l'homme, pour le Fils de Dieu. Lui qui n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette humble naissance de Jésus, c'est bien ce qu'il fallait à celui qui est venu mourir comme substitut à la place du pauvre pécheur que je suis. Voilà le premier grand renversement, le roi du monde, le Fils de Dieu, qui naît non pas dans un palais, non pas dans un endroit extraordinaire, non pas même à la capitale du pays, mais à Bethléem, dans une petite ville. Le deuxième grand renversement qu'on voit, c'est Dieu qui se fait chair. Et tu nous en as parlé, Loïc, tout à l'heure. Quand un enfant naît, on l'a entre les mains, on est à la fois émerveillé par ce petit être qui vient d'arriver, si vous avez déjà eu l'occasion de vivre ça, ou d'avoir peut-être un neveu, une nièce, ou quelqu'un, un bébé dans les bras, c'est extraordinaire. Et en même temps tellement fragile. Il suffirait de quelques journées sans s'en occuper pour qu'il meure. Et c'est exactement ça qu'ont vécu Marie et Joseph. C'était leur premier enfant. Nous, notre premier enfant, on ne savait pas trop comment faire. Heureusement, il y avait les parents, il y avait d'autres gens qui étaient là pour nous aider. Mais les voilà, eux, parents, pour la première fois, seuls dans cette étable. Ce petit bébé, il est là, il le regarde attentivement, il découvre tous les traits de son visage. Mais en plus, ils savent que ce bébé, il n'est pas comme les autres. Ce n'est pas juste un bébé. Ils savent que Dieu les a choisis pour accueillir le Messie. Celui dont parlent les Écritures. celui qui a inspiré des poèmes, des hymnes, des songes, des prophéties, il est là, dans leurs mains. C'est difficile à ce moment-là d'imaginer que ce petit bébé qu'ils tiennent dans leurs bras, c'est le Messie, l'incarnation de Dieu, la vie éternelle qui s'est faite chair, l'infini emmailloté dans une mangeoire. Il y a quelque chose d'incompréhensible, non ? Et puis en plus, à cette époque, on s'imaginait que le Messie, ça devait être un homme charismatique avec la sagesse de Salomon, la puissance de David, un génie militaire comme Josué et une piété extraordinaire comme Moïse. On se disait, le Messie, ça va être tout ça à la fois. Ça va être quelqu'un d'extraordinaire. Il va venir délivrer Israël. Et là, ils ont dans les mains un tout petit bébé, tellement fragile, tellement frêle. Mais comment ce bébé pouvait-il être le Messie ? Lui dont l'origine remonte aux temps anciens, nous dit Michée, au temps éternel. Ce bébé qui avait faim, qu'il fallait changer, qui se réveillait la nuit, et parfois qui pleurait, on ne savait pas trop pourquoi, j'imagine, il ne savait pas trop pourquoi, comme tous les parents du monde. Pourquoi le Messie, qui est ce Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pourquoi est-ce qu'il devait naître comme un enfant ? Eh bien justement, parce que la mission du Messie serait de réconcilier l'humanité avec Dieu. Et pour cela, il fallait qu'il soit pleinement Dieu et pleinement homme. Pour pouvoir accomplir son sacrifice parfait, pour notre faveur, en notre faveur, Jésus devait se livrer totalement. Et on pourrait imaginer, peut-être, Jésus aurait pu arriver comme ça un jour dans la gloire, dans le ciel, déjà adulte, et puis dire, voilà, je suis là, maintenant, clouez-moi sur la croix. Au lieu de cela, il a choisi de venir comme un bébé couché dans une mangeoire. Et on le voit à 12 ans qui s'occupe déjà des affaires de son père. Et à ce moment-là, Marie et Joseph qui sont étonnés. Et Marie qui garde tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend dans son cœur. On le voit, ce Jésus, ce jeune homme qui commence paisiblement son ministère, un ministère qui va changer l'histoire de l'humanité. Et on entend les murmures de ses voisins qui se disent « Mais ce n'est pas le fils du charpentier. Ses frères, ses sœurs, on les connaît. Mais d'où lui vient cette puissance ?» On le voit dans le désert en train de lutter contre la tentation et rester fidèle à Dieu pour accomplir sa mission, ce pourquoi il est venu. On voit son amour pour les enfants, qui est tellement vrai, parce qu'il a lui-même été un enfant. On le voit avoir compassion pour ceux qui souffrent, parce que lui aussi a souffert. Et puis quand les clous ont été plantés dans ses poignets, dans ses mains, on peut imaginer la souffrance et la douleur. Quelque part, on la ressent avec lui, parce qu'il était un homme comme nous. Il a souffert aussi. Et vous voyez, notre salut, le pardon de nos péchés, passe par ce sang qui a coulé. Jésus a tout payé. Il nous a rachetés à un prix qu'on n'aurait jamais pu payer nous-mêmes. On n'aurait jamais pu résister à la tentation comme il l'a fait. On n'aurait jamais pu aimer comme il a aimé. On n'aurait jamais pu avoir compassion comme il a eu compassion. On n'aurait jamais pu rester fidèle comme il est resté fidèle. Si Jésus avait été uniquement Dieu, son sacrifice aurait eu peu de valeur pour nous. Ça aurait été peu convaincant. Et s'il avait été seulement un homme, son sacrifice aurait eu aucune puissance pour nous. Il aurait été seulement un martyr, comme il en existe des milliers dans l'histoire. Mais il était homme et Dieu. Et il est venu comme un enfant, pour connaître nos difficultés, pour vaincre les tentations. Et là, s'approcher du trône de Dieu, s'approcher du trône de la grâce, en vue du salut dont on a besoin, ça prend tout son sens. Parce que Jésus ressuscité aujourd'hui connaît exactement notre condition et notre situation humaine. Nous pouvons lui abandonner notre vie, parce qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. L'autre grand renversement, pardon, qu'on voit, c'est des mages qui se prosternent. Là, on est dans Matthieu chapitre 2, dans un autre évangile. Je ne vais pas lire tout le récit parce qu'il est assez long. Mais vous connaissez probablement ce texte ou ce récit des mages qui viennent d'Orient et qui viennent pour se prosterner devant ce petit bébé Jésus. Alors, il y a beaucoup de mythes sur les mages. Beaucoup de choses ont été dites, mais en fait, on ne sait pas grand-chose exactement sur qui ils sont. La Bible reste assez prudente et ne dit pas grand-chose. Mais ce qu'on peut noter, c'est que les mages ne sont pas des rois, déjà. Et alors, j'ai fait quelques recherches pour savoir qui ils étaient, mais on sait que dans l'Empire Médo-Perse, l'Orient, l'Empire oriental, qui était à l'Orient d'Israël, c'était une caste influente de prêtres dans la religion zoroastrienne, zoroastrisme, une religion assez ancienne, qui a été imposée par Darius le Grand. Darius le Grand, on le connaît parce que c'était l'empereur perse à l'époque de Daniel, dans la Bible. Et à ce moment-là, il a imposé cette religion et il y avait autour de lui des sages, des sacrificateurs, des gens qui faisaient le travail de médiation entre Dieu, la divinité, et le peuple. Alors, ce n'était pas le Dieu d'Israël, hein, c'est une autre religion, une autre croyance, mais qui a été probablement assez influencé par le judaïsme. Et certains pensent que Daniel, qui était à la cour du roi, qui restait fidèle au Dieu juif, au Dieu d'Israël, eh bien, il aurait influencé aussi les croyances de Darius, qui d'ailleurs appréciait beaucoup Joseph. Et on retrouve dans le zoroastrisme quelques... Daniel, j'ai dit qui ? Joseph, excusez-moi, Daniel, merci. Et on retrouve dans cette religion des éléments assez semblables avec le judaïsme. Et il semblerait que les mages de cette religion zoroastrienne avaient en fait un regard favorable sur les Juifs. Et c'est probablement pour ça que ça ne leur a pas posé de problème de venir pour eux en Israël pour aller voir ce petit bébé. Mais leurs connaissances et leur influence religieuse et politique ont grandi au fur et à mesure de l'histoire et ils sont devenus les conseillers de l'empereur. Ils n'étaient pas des rois, mais ils avaient quand même un rôle très important. Dans le récit de Daniel, si vous connaissez ce récit, on voit que le roi fait un rêve, il demande à ses conseillers et à ses magiciens de donner le sens de ce rêve. Probablement que c'était des rois mages comme ça. Des mages comme ça, pas des rois mages du coup. Probablement que c'était ces personnes-là, proches de l'empereur. Et donc voilà ces personnes tellement importantes dans leur empire, pas un petit empire, hein, l'empire perse, tellement importantes, ce groupe d'hommes importants, influents, qui viennent se prosterner devant le Messie. Waouh ! Quelle humilité ! Quelle humilité ! Ils auraient pu rester du haut de leur piédestal et se dire « Mais attendez, nous, on est les conseillers de l'empereur. Il y a l'empereur et il y a nous. » D'habitude, les gens viennent nous voir pour avoir des conseils, pour avoir notre sagesse, pour qu'on puisse faire des sacrifices pour eux. Et maintenant ? Et maintenant, ben, nous allons aller voir ce Messie, ce petit bébé, parce que Dieu nous appelle à aller le voir. Et on va s'humilier jusqu'à se prosterner devant lui. Quel bel exemple ! Quel bel exemple pour nous ! Le dernier de ces grands renversements où on voit les élevés qui s'humilient, c'est un roi qui a peur d'un enfant. Alors là, c'est un peu différent parce que Hérode, ce roi Hérode qui a peur de la venue de cet enfant, ce n'est pas lui-même qui va s'humilier. Mais voyez comme c'est incroyable. Le roi Hérode, c'était un homme qui était assez ambivalent, qui était puissant. Il avait eu un certain nombre de responsabilités avant d'être le roi de toute cette contrée de l'Empire romain. Et c'était un homme puissant, un guerrier. Et les historiens disent qu'il était très rusé, très capable. C'était un grand orateur et c'était un fin diplomate. Et dans une région qui était difficile à gérer pour les empereurs, on le voit par la suite avec Ponce Pilate, dans une région qui était très difficile à gérer, ils étaient contents d'avoir un homme qui était diplomate et qui était malin. Il savait aussi faire plaisir quand il fallait. Il semblerait que Hérode, on raconte cette histoire, les historiens disent en fait qu'il a redistribué à un moment des taxes à la population parce qu'il vivait une crise économique importante. Et même, il aurait fait fondre des objets en or personnel pour pouvoir acheter de la nourriture pour les personnes pauvres à ce moment-là. Il a fait des grandes constructions, et parmi elles, le temple juif à l'époque de Jésus. Il a reconstruit le temple pour les Juifs, probablement pour s'attirer la faveur des Juifs. Il était malin. Donc c'était un homme qui pouvait faire preuve de bonté, qui pouvait être malin dans sa manière de gérer un peuple. Mais c'était aussi un homme qui était cruel, jaloux, soupçonneux. Et on raconte qu'il a fait noyer le souverain sacrificateur juif, qui était le frère de son épouse. Il a fait noyer son beau-frère. Et ensuite, il a fait tuer son épouse, et puis sa mère, et puis deux de ses propres fils, et encore plus tard, un autre fils. Tout ça parce qu'il était convaincu qu'ils allaient un jour prendre sa place. On raconte même que peu avant sa mort, il avait tellement peur que le peuple ne le pleure pas, qu'il a fait enfermer tous les notables juifs de Jérusalem pour que le jour où il meurt, il soit assassiné. Comme ça, il était sûr que ce jour-là, le peuple de Jérusalem allait pleurer. Un homme ambivalent, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. Et évidemment, le récit biblique nous dit que le jour de la nativité, ou en tout cas quand Jésus est né, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas hésité à faire tuer tous les bébés de 2 ans et moins à Bethléem et dans toute la région, parce qu'il avait peur qu'on lui prenne sa place. Cet homme était puissant, il était redoutable, il était craint, mais ironie du sort, il avait peur d'un petit bébé. C'était pas n'importe quel bébé. C'était le roi du monde qui venait s'incarner. Mais vous voyez comment Dieu renverse les choses. Et même les plus puissants de notre monde, même les personnes les plus cruelles de notre monde, même les personnes qui ont la plus grande influence dans notre monde, ne sont rien face à ce petit bébé, ce Dieu infini qui s'incarne le jour de Noël. On peut continuer. Et on voit les humbles qui sont élevés. Alors tu vois, Loïc, tu disais que Siméon, il avait une grande barbe. Moi, j'ai une photo de lui avec une barbe plutôt courte. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une photo et puis il m'a proposé ça. Je ne sais pas si c'est réaliste. Mais on voit aussi, donc, c'est le deuxième grand renversement. D'abord, les élevés qui s'humilient ou qui sont humiliés, mais on voit aussi les humbles qui sont élevés. Et regardons d'abord des petites gens qui sont honorés. Parmi eux, il y a Marie, la mère de Jésus. Marie, elle a écrit ce qu'on appelle le Magnificat. On est dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55, je ne vais pas tout lire. Mais elle dit au verset 48, elle dit, verset juste avant, « Mon esprit est dans l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Marie, elle se sait petite. C'était une jeune fille, humble, qui reconnaît la bienveillance de Dieu à son égard, qui lui a donné de porter le Messie. Et avec une foi extraordinaire, elle accepte et elle croit ce que l'ange lui dit quand il lui annonce qu'elle va donner naissance au Messie. Et il y a d'ailleurs là un contraste avec Zacharie, qui lui-même est souverain sacrificateur, quelqu'un d'important, mais qui ne va pas croire tout de suite ce que l'ange lui dit. Il va falloir que Dieu agisse avec un peu de puissance pour le convaincre. Et vous savez, on n'en sait pas beaucoup plus sur Marie. On sait que c'était une femme pieuse et qu'avec Joseph, ils appliquaient la loi. On sait aussi qu'elle ne comprenait pas tout de ce qui était en train de se passer sous ses yeux au début. Mais elle gardait dans son cœur tout ce qu'elle voyait et entendait, nous dit Luc. Et puis, c'est une femme qui a accompagné son fils dans tout son ministère. On le voit à Noces de Cana, quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et puis, on la voit aussi plusieurs fois dans son ministère. Elle suit son fils et au jour de la croix, quand Jésus va mourir, elle est au pied de la croix. Elle l'a accompagnée jusqu'au bout. Et puis après, Jésus va ressusciter, il va y avoir l'ascension, et elle était, si vous lisez Actes, je crois que c'est le chapitre 1, elle était dans la chambre haute avec les disciples, et elle priait avec les disciples. Elle a accompagné son fils dans tout son ministère. Probablement qu'à la fin, c'était une vieille dame. Une femme discrète, dont on ne sait pas grand-chose, mais une femme que Dieu a choisie pour l'élever et pour la rendre bien heureuse pour toutes les générations. Voilà ce qu'elle dit dans son psaume de louange quand elle prend conscience qu'elle est appelée par Dieu pour le Messie, pour porter le Messie. Voilà une femme que Dieu a élevée. Et on peut continuer, dans les autres personnes, les autres petites gens, il y a les bergers. Alors les bergers, dans la culture israélite de l'époque, c'était des gens qui étaient très bas dans l'échelle sociale, peu instruits, peu doués. Ils étaient même perçus à l'époque, alors à tort ou à raison, mais en tout cas, ils étaient perçus comme des gens malhonnêtes, peu fréquentables, peu fiables. Et puis en plus, ils étaient mis de côté par les responsables religieux parce que bah, quand tu es berger, tu dois travailler 7 jours sur 7. Tu ne respectes pas le jour du sabbat. Bah, tu es impur. MacArthur dit qu'ils n'étaient même pas autorisés à témoigner en justice, tellement ils étaient considérés comme moins que rien dans la société. Et pourtant, le métier de berger, quand on regarde dans la Bible, c'est un beau métier qui est honoré. Et puis, des grands hommes ont été bergers. On pense à David, bien sûr, le grand roi qui a commencé en tant que berger. On pense à Moïse qui a été berger pendant des années. Et puis, Dieu n'est-il pas appelé le berger d'Israël dans le prophète Ézéchiel? Et Jésus ne se présente-t-il pas comme étant le bon berger qui prend soin de ses brebis? Mais voyez probablement que les bergers, ce n'est pas les premières personnes à qui on aurait pensé pour annoncer la venue du Messie. Et pourtant, Dieu les choisit. Et leur réaction, elle est incroyable. Au début, ils ont peur des anges, forcément. Ils ont ce truc en pleine nuit qui leur arrive, là. Ils ont peur et finalement, très vite, ils sont rassurés par la bonne nouvelle qui leur est annoncée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Première chose qu'ils font, ils courent à Bethléem pour voir ce que les anges leur ont annoncé, avec une spontanéité, une candeur, une joie. Moi, j'ai l'impression de voir des enfants, vous savez, des enfants qui sont juste simples, honnêtes, entiers, tellement heureux, bah, allez, on court et on va voir. C'est un peu ça qu'ils ont vécu. Et après avoir vu le Messie, ils repartent. Est-ce que vous avez noté ce qu'ils font après? Ils vont raconter tout ce qu'ils ont vu autour d'eux. Tout ce qu'ils ont vu. Ils deviennent en fait les premiers évangélistes du Nouveau Testament. Dieu a choisi des gens petits pour les élever, pour les honorer. Et on peut continuer avec Siméon et Anne. Et Siméon, il est présenté, tu nous en as parlé Loïc, je vais aller un petit peu rapidement, comme un homme juste, un homme qui a été justifié, comme Abraham, la justice lui a été imputée par la foi. Un homme juste et pieux, ça veut dire qu'il avait du respect, de la crainte de Dieu. Il y a dedans l'idée d'obéissance à Dieu. Ce n'était pas un juif selon les apparences. Vous savez, Paul va dénoncer ce judaïsme-là, Jésus aussi. Et il va dire, Paul, je crois que c'est dans Romains 2, qu'il y a les juifs selon les apparences ou ceux qui ont une simple appartenance ethnique, mais qui ne sont pas juifs intérieurement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas foi en Dieu, cette foi qui sauve. Siméon, il n'était pas comme ça. Il était juste et pieux. Et il attendait la venue du Messie. Et cet homme, que personne ne connaissait vraiment, ce vieillard, Dieu lui a fait une promesse incroyable. Il lui a dit, avant que tu meures, tu vas voir le Messie. Waouh ! Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour un juif ? Avant que tu meures, tu vas voir le Messie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie après cette annonce, mais il n'a pas dû vivre de la même manière, hein. Est-ce que tous les jours, il allait au temple en disant « Alors, est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui ?» Mais il savait fermement, parce que Dieu lui avait promis qu'il verrait le Messie. Un homme qui avait le Saint-Esprit en lui. Des fois, on pense que le Saint-Esprit, il est arrivé juste à la Pentecôte. Non, non, il était déjà présent avant. On ne peut pas être juste et pieux sans l'œuvre du Saint-Esprit qui nous pousse à nous repentir de nos péchés et à croire en Dieu, de placer notre foi dans les promesses de Dieu. Alors il est là, ce Siméon, et il attend quotidiennement de voir le Messie. Et un jour, ça y est, le Messie arrive. Et là, on voit la joie de cet homme, tellement heureux, tellement reconnaissant. Ça y est, je peux mourir tranquille. Un saint homme tout à fait ordinaire à qui Dieu fait une promesse extraordinaire. Et puis ce jour-là, au temple, Marie et Joseph sont venus pour faire circoncire leur fils. Ils obéissent à la loi. Siméon les voit et dit « Ça y est, il est là, le Messie !» Dieu lui a révélé que c'était maintenant. Et puis, il y a une petite femme, une vieille femme qui est à côté, quelqu'un qui habite au temple depuis des années et des années, qui est peut-être depuis tellement longtemps qu'elle fait partie des meubles. Ça se trouve, les gens ne la remarquaient même plus. Et elle servait Dieu nuit et jour par la prière et le jeûne. Et ce petit bout de femme qui... Voilà, on n'a pas d'autres infos sur elle, on ne sait pas ce qu'elle faisait, ce qu'elle vivait. Enfin, si elle était prophétesse, peut-être qu'elle annonçait ou elle enseignait la parole. Eh bien, moi, je l'imagine dans le temple marcher, puis d'un coup, il y a l'oreille qui se tend. Elle dit, tiens, je suis en train d'entendre un psaume de louange. Est-ce que ce ne serait pas le Messie qui serait là? Et c'est une femme qui était tellement proche de Dieu, par sa vie de prière notamment, qu'elle a tout de suite vu qui était ce bébé. Et elle n'a pas douté. Elle a tout de suite compris ce qui était en train de se passer. Et vous voyez une femme âgée, peu connue, qui a eu le privilège de voir le Messie et de le reconnaître parmi les premiers. On voit... Pardon, j'ai appuyé sur le bouton... Non, je me suis trompé de titre, je suis désolé, c'est pas les élevés qui s'humilient. Bref, vous avez compris, hein, c'est l'inverse. Et puis on a le deuxième, c'est une petite ville qui accueille le grand roi. Alors dans Luc 2, Matthieu 2, Michée 5, on voit que tout ce récit se passe à Bethléem en Judée. Et Bethléem, c'était une toute petite ville. On n'était pas très loin de Jérusalem, une dizaine de kilomètres. Et c'est une ville qui a déjà porté le nom d'Éphrate, Éphrata, on le voit dans l'Ancien Testament. Et cette petite ville de Bethléem, elle a quand même une sacrée histoire. C'est là que Jacob a enterré Rachel, par exemple. C'est également ici que Ruth et Boaz se sont rencontrés. Et puis, trois générations plus tard, le grand roi David est né dans cette ville. C'est là que le roi David a gardé les moutons quand il était jeune. Et donc, cette ville, elle a une saveur particulière et on l'appelle la ville de David. Parce que le grand roi David, cette figure royale, est né dans cette ville et il a vécu dans cette ville au début. Il vient de là. Et Michée dira, et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, une toute petite ville, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Toi la petite, tu vas donner naissance à celui qui va dominer sur tout Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Une toute petite ville choisie par Dieu pour accueillir le Messie. Puis en plus, Dieu... Il veut montrer sa providence. Il veut montrer sa providence. Donc il va choisir un couple qui habite à Nazareth. C'est très très loin. Il choisit un couple qui habite à Nazareth pour donner naissance au Messie à Bethléem parce que c'était là que ça devait se passer. Alors il va simplement utiliser l'empereur romain, faire un recensement, enfin facile quoi, pour Dieu, évidemment. Alors on voit les personnes élevées qui s'humilient ou qui sont humiliées par Dieu. On voit les personnes humbles qui sont élevées par Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça aujourd'hui? Probablement que dans le récit de la nativité, on pourrait trouver d'autres exemples, d'autres moments où on voit ce grand renversement. Mais je vous propose maintenant quatre applications de ce qu'on a vu ce matin. La première application... Eh bien, en fait, ça me paraît tout simple, c'est souvenons-nous, les amis, des méprisés. C'était le ministère principal du Messie, ou pas, je ne sais pas si c'est principal, mais en tout cas, voilà comment le Messie s'est présenté. Voilà comment le Messie a été présenté par Dieu. Et si Noël était la meilleure occasion pour nous de témoigner de ce grand renversement, de ce souci de Dieu pour ceux qui sont méprisés, de ce souci de Dieu pour les petites gens. Alors, je ne sais pas comment le faire. Peut-être on peut inviter des personnes seules à partager Noël avec nous, si c'est possible. Peut-être on peut prendre le temps pour aller voir ceux qui sont écartés de la société, nos bergers contemporains. Ces personnes qui sont un peu le rebut, on est très content quand ils sont loin. Puis dès qu'ils sont proches, ouf. Pourtant, c'est à des gens comme ça que Dieu est venu parler. Et vous voyez, notre cœur va toujours désirer aller voir les personnes qui sont élevées. Et Jacques, il le dit dans son épître, faites attention, hein. Il dit c'est terrible. Quand il arrive dans une église, quelqu'un qui a plein de sous et on lui donne une place d'honneur. Et puis la petite personne, bon, il nous donne une petite chaise dans le fond, il dit vas-y, assieds-toi là. Et il dit ça ne devrait pas se passer comme ça. Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Soyons prêts à élever les personnes qui sont humbles dans notre monde. Je sais que plusieurs le font déjà ici parmi nous, hein. Mais c'est quelque chose de tellement important, c'est tellement un beau témoignage de l'Évangile. Parce que c'est ce que Jésus a fait pendant toute sa vie terrestre. C'est ce que Dieu a voulu dès le commencement, quand il est arrivé sous la forme d'un petit bébé. Deuxième chose que je vous propose, deuxième application, c'est Dieu parle aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Vous connaissez ce verset dans l'Épître de Jacques ? Il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Vous savez, c'est dans l'humilité que Dieu se révèle. Et au contraire, l'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil est la racine de tous les autres péchés. L'orgueil va nous pousser à penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. L'orgueil va nous pousser à lutter par nous-mêmes contre nos propres péchés en se disant « j'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai pas besoin d'un sauveur ». L'orgueil va nous éloigner de la grâce de Dieu. Je me permets un petit témoignage personnel. Cette semaine, un ami m'a téléphoné pour me demander comment j'allais. C'était prévu, il m'a dit « est-ce que je peux t'appeler pour prendre des nouvelles ?» Alors voilà, dimanche matin à 10h, on a pris rendez-vous, il m'appelle, puis il me demande « comment vas-tu ? Comment va la famille ? Comment toi tu vas ? Comment ça va à l'église ?» C'est un peu un des bergers pour les pasteurs de notre union d'église. Alors il me pose des questions « comment ça va avec l'église ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que vous vous sentez accueilli ? Est-ce que ton ministère se passe bien ?» Il me pose des questions et donc on a eu un chouette échange. Et voilà, je ne le cache pas, j'étais très positif sur ce qu'on vivait, je le suis, on l'est en ce moment. Et puis après, il me demande « Et toi, comment ça va dans ta vie avec Dieu ?» Alors là, c'est un peu plus intime, un peu plus profond. Donc on parle de ma relation avec Dieu, de là où j'en suis, de mes forces, de mes faiblesses, de mes joies, de mes peines, de mes chutes. Et puis après avoir discuté, il me dit « Mathias, tu dois te rappeler, je pense, l'importance de la grâce de Dieu. » Et je dis « Ouais, c'est vrai, moi je notais ce qu'il me disait, donc j'ai noté sur mon petit carnet, je dis « Ouais, c'est vrai, je l'ai noté. » Il dit « Ouais, mais tu dois le noter et le souligner. » Peut-être que dans mon orgueil, ces derniers temps, mon orgueil m'a poussé à peut-être un petit peu mettre de côté la grâce de Dieu. Et j'étais obligé de me repentir de ça. On a prié ensemble et je suis tellement reconnaissant de ce frère qui a pris soin de moi comme ça. Mais vous voyez, ça arrive tellement vite dans la vie de tout le monde. Cet orgueil qui nous éloigne de Dieu et qui nous amène à ne pas dépendre de sa grâce. Alors peut-être que quand je vois ce texte, ça peut nous amener à nous repentir de notre orgueil pour qu'on puisse recevoir Jésus, le Messie, dans toute sa grâce, dans toute sa plénitude, là où on en est aujourd'hui, demander humblement son soutien dans l'humilité. Troisième application, Dieu s'humilie pour que nous puissions être honorés. Alors ce n'est pas tant une application, mais j'aimerais qu'on puisse se souvenir de ça jour après jour. Et peut-être que le temps de Noël est particulièrement important pour ça. Vous le savez, notre condition de pécheur nous apporte la honte, la peur, l'angoisse. Et ça nous enferme dans quelque chose qui est tellement mauvais. On s'éloigne de Dieu. Et si on persévère dans le péché, si on ne vit pas dans la grâce de Dieu, mais qu'on vit dans le péché, c'est tellement mauvais pour nous, c'est terrible de vivre dans cette condition-là. Mais la vie avec Dieu est complètement différente parce que Dieu délivre et Dieu honore. Et vous voyez, quand on est chrétien, ça veut dire qu'on est passé de cette situation, de ce statut de pécheur méprisable et enfoncé dans le cercle vicieux de notre péché, tellement loin de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu fait un grand renversement et il nous appelle. Il dit « Ne reste pas là-dedans. Tu peux être honoré. Tu peux vivre quelque chose de nouveau. » Avec moi. C'est tellement fort de se rappeler de cette réalité. Et c'est peut-être particulièrement important si on passe par des temps de découragement, si on passe par des temps peut-être de sécheresse dans notre vie avec Dieu. Rappelons-nous que Dieu s'est humilié pour que nous puissions être honorés avec lui. Il n'y a plus à avoir honte de notre péché devant Dieu, parce que nous sommes pardonnés, justifiés, purifiés par sa grâce. Et par son œuvre à la croix. Et quand on est passé dans cet honneur d'être pardonné de notre péché, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on devient les héritiers du royaume de Dieu. Alors qu'on était finalement des misérables qui ne méritaient que l'enfer et la condamnation de Dieu, par son salut, Jésus-Christ nous arrache de ça et nous fait devenir les héritiers de son royaume. Les héritiers du royaume de Dieu. Je ne sais pas si on a bien compris. Les héritiers du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte? Il n'est plus question de savoir si on a une situation économique ou humaine ou je ne sais pas. On est les héritiers du grand roi, du royaume de Dieu. On était dans la misère, mais il nous a arrachés à ça pour nous offrir son royaume. C'est tellement beau, c'est tellement grand, tellement merveilleux. Et on comprend pourquoi les anges, ils ont loué Dieu de tout leur cœur, parce qu'ils comprenaient cette réalité-là. Vous voyez combien la naissance de Jésus, combien la fête de Noël nourrit notre espérance. Parce que quelle que soit notre situation là maintenant, nous pouvons nous rappeler que nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Et ça nous aide à passer les moments difficiles. Ça nous aide à passer les moments où on a du mal à voir ce qui va se passer le lendemain ou le surlendemain parce qu'on est complètement étouffé par les soucis de ce monde. On est héritier du royaume de Dieu. Que ça puisse nourrir notre espérance pendant la semaine qui vient et au-delà. Alors, comment conclure ? Noël, évidemment, c'est renversant. C'est l'histoire d'un grand renversement, d'un grand bouleversement qui sera le point de départ du ministère terrestre de Dieu le Fils. Alors que notre Noël cette année soit empreint d'humilité, de gloire rendue à Dieu et d'espérance que Dieu ne nous laisse pas dans notre misère. Amen.